Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
No flash, no scoop. C'est 7 bonnes nouvelles.
L'émission qui vous met la patatas.
Bonne nouvelle.
Bonne nouvelle.
C'est quand ça fait boum dans mon cœur.
Une bonne nouvelle, ça a réjoui.
Oh, une bonne nouvelle.
Une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle.
Bonjour, bonjour les cueilleurs de bonnes nouvelles et bienvenue sur CBN, 7 bonnes nouvelles sur 107.0 on Radio Bartas avec Virginie et Philippe. Alors bonjour Virginie, alors est-ce que tu as la patatas aujourd'hui?
Ah oui, à fond, là c'est la rentrée, c'est parti, on est en pleine forme.
Super.
Donc bonjour à tous. Donc, apparemment, en tout cas, vous aussi, vous avez la patatas, et vous avez tellement la patatas que vous n'avez pas vraiment eu le temps, j'ai l'impression, de nous envoyer des bonnes nouvelles. Hein. C'est vrai, c'était la semaine de la rentrée, vous étiez occupés, le cartable, cueillir les murs, etc. Donc, nous avons un seul message sur notre répondeur.
Oh, dommage. Mais merci à celui ou celle qui nous l'a laissé.
Et donc, on l'écoute hein, avec beaucoup d'attention.
Bonjour Florac, nous voici arrivés en terre cosnarde, nous venons du Maroc et nous sommes super contents donc de nous installer à Florac. Voilà, on a trouvé un appart et voilà, on espère faire de belles choses ici. À très bientôt et encore merci à la population floracoise pour son accueil. Au revoir.
Bon, c'est vraiment une bonne nouvelle.
Oui, c'est un très beau message.
Oui. Donc, on a eu aussi quand même sur la boîte mail de CBN quelques messages. Alors, le premier, donc ça émane de l'association EPI Demain, 09 72 12 96 16, et c'est une annonce urgente. Alors, à saisir deux ânes mâles castrés de 4 ans à donner gratos. Super. Ils paissent actuellement tranquillos en Camargue. Donc il faut quand même aller les chercher, que les intéressés se fassent connaître, et je les rencarte plus avant. Alors, c'est Yves qui nous a laissé ce message, et je peux rappeler le téléphone, 09 72 12 96 16.
Manger des cornichons pourrait réduire l'anxiété sociale. Cette information, basée sur des recherches très sérieuses, a été émise par des chercheurs en psychologie de l'université William et Mary aux États-Unis. C'est une étude qui est basée sur 700 questionnaires. Donc merci pour cette belle cueillette, Cécile.
Journée porte ouverte à la bibliothèque de Florac le jeudi 17 septembre pour fêter l'ouverture de la bibliothèque tous les jeudis matins de 10h à 12h30, en même temps que le marché.
Une bonne nouvelle médicale que j'ai attrapée sur un mur de Florac, en fait. C'est une citation qui est joliment écrite. Et ce matin, en arrivant à Bartas, je l'ai vue et je ne résiste pas à vous la lire. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne.
Alors, merci pour toutes ces contributions. Modeste et génial, comme on dit. Et bon, évidemment, on aime beaucoup. Alors, n'hésitez pas. Hein, je vous rappelle le numéro 04 66 47 06 92 et le mail, très simple, cbn@radiobartas.net. Radio Bartas se touche. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Hein, toutes les bonnes nouvelles sont les bienvenues, même des très simples, des plus compliquées. Allez-y, lâchez-vous.
Tout de suite, notre deuxième rubrique, CBN Tout Azimut, qui parle cette fois-ci des bonnes nouvelles un petit peu plus éloignées de nous, que ce soit à l'échelle régionale, départementale, nationale ou internationale.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Bartas.
Alors Philippe, est-ce que tu as une première bonne nouvelle à nous donner ?
Oui, alors c'est une bonne nouvelle médicale. Alors c'est un peu pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop les aiguilles, les grosses aiguilles, les prises de sang et tout ça. Il y a une société américaine qui s'appelle Tasso Incorporation qui a mis au point une espèce de ventouse, grosse comme une balle de ping-pong, qui se pose sur la peau et qui fait le vide d'air. Il y a le vide d'air à l'intérieur. Ça permet d'aspirer le sang à travers la peau et en 2 minutes, on a l'équivalent d'une prise de sang, donc c'est sans douleur, voilà, et puis ben, c'est un objet qui sera commercialisé à partir de 2016, donc voilà, bonne nouvelle pour les infirmières, elles ne nous terroriseront plus en venant nous faire une prise de sang.
Le président Obama annonce un projet avec des objectifs environnementaux de plus en plus ambitieux. Alors, c'est ça la bonne nouvelle, hein. Les États-Unis devraient réduire leurs émissions à effet de serre liées à la production d'électricité de 32% au lieu des 30% annoncés initialement. En fait, c'est le plan américain pour une énergie propre, piloté par l'Environmental Project Agency, qui propose ce nouveau plan. L'accent sera mis sur les énergies renouvelables pour compenser ces baisses d'émissions, notamment sur l'éolien et le solaire. Ça, c'est assez classique. Le plan allie rigueur et flexibilité parce qu'il est vrai qu'il rencontre énormément de résistance dans les États américains. Il faut rappeler qu'il y a quand même 1200 stations à charbon, en fait, qui sont encore actives et très actives aux États-Unis. Donc, certains élus de ces États essayent d'engager une vraie bataille juridique. Pour l'instant, fort d'un décret de la Cour suprême de 2007, l'administration centrale tient le coup. Et donc propose des mesures intéressantes de compensation en assurant qu'il y aura plutôt une réduction sur la facture des consommateurs. Apparemment, l'industrie a commencé à anticiper cette évolution parce que selon l'EIA, il y aurait déjà eu une baisse de la consommation électrique par combustion carbone cette année. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Obama, lui, ne cesse de marteler ses ambitions environnementales. Il est soutenu par la candidate démocrate à l'investiture Hillary Clinton, qui a elle-même un projet ambitieux sur l'énergie solaire. Donc tout ça est plutôt de bon augure, hein. On essaie d'y croire encore.
Oui. Et voilà, espérons que ces engagements, en tout cas, ils seront tenus et que M. Obama tiendra le cap.
Oui, il n'a plus rien à perdre, alors on a foi en lui.
Voilà. Une bonne nouvelle désaltérante et économique, donc désaltérante pour cette fin d'été. Je voulais vous présenter une initiative économique qui m'a semblé intéressante. Alors, la question c'est comment entreprendre et réussir à créer une activité viable en zone rurale. Voici l'exemple des Malteurs Eco en Ardèche, une société qui transforme de l'orge bio en malt pour des brasseurs de la région. Et ben, ces brasseurs, ensuite, évidemment, ils vont faire de la bière avec ce malt bio. Parce que la difficulté, c'est qu'ils produisent du malt, Malteurs Eco, qui est vendu en fait 2 fois plus cher que le malt industriel qu'on peut acheter, par exemple, en Allemagne pour faire de la bière. Alors, pourquoi ça fonctionne en fait parce que là-bas, leur projet en Ardèche, il a aussi d'autres valeurs. Ils ont créé, on va parler tout à l'heure de filière locale, et bien là, on est en plein dedans. Ils ont créé une filière locale de la culture de l'orge bio avec des agriculteurs qui sont en Ardèche aussi. Ils sont certifiés bio. Et donc, ils développent forcément de l'emploi local, aussi bien chez les agriculteurs que dans la malterie. Et c'est une malterie qui a un statut administratif de société coopérative. Donc, en fait, ils travaillent au développement de cette filière. Ce produit, en fait, le malt bio, il correspond aussi à une attente des clients. Donc, puisque Malteurs Eco travaille avec des brasseurs essentiellement de Rhône-Alpes, et les clients de ces brasseurs étaient à la recherche d'une bière locale et surtout de qualité. Donc maintenant, ces brasseurs de Rhône-Alpes, ils peuvent proposer une bière de bonne qualité et qui a l'étiquette locale. Et ça fonctionne puisque Malteurs Eco a prévu d'augmenter petit à petit sa production de malt bio. Avec un objectif aussi d'emploi qui va avec, etc. Voilà, en tout cas, ça montre que voilà, y a de la place pour la qualité des produits, pour les filières locales, et c'est super.
on part au Canada. C'est l'histoire d'une petite communauté d'Amérindiens qui a refusé un pot de vin, tenez-vous bien, un pot de vin $1 milliard.
Et
pour protéger ces terres sacrées. En fait, c'est un groupe pétrolier, hein, pour ne pas les nommer Malaysian Petronas, qui avait l'ambition de construire un port spécialisé pour l'acheminement du gaz naturel, liquéfié. Donc ça, c'est le sous-projet d'un énorme projet d'exploitation d'un montant de $36 milliards. Enfin voilà, ça dépasse tout entendement. Mais cette petite communauté amérindienne, après 6 consultations publiques et débats, le conseil de la tribu, alors leur nom c'est les Laxnoan Alam, désolé, hein, c'est certainement pas la bonne prononciation, ben, ce conseil de tribu s'est opposé au paiement et au projet et donc a tout bloqué pour l'instant. Alors, ce n'est pas forcément gagné-gagné, mais c'est déjà un bon pas. Et il y a en fait pas mal de communautés comme ça qui s'engagent en ce moment, notamment en Amérique du Nord, pour protéger leurs terres et protéger l'environnement. Donc, ben voilà, on pense à eux, on les soutient et bravo encore une fois.
Alors, maintenant, une bonne nouvelle culinaire. Alors, Virginie, alors... Que fais-tu de tes épluchures de légumes quand tu viens, par exemple, de faire des carottes ou des courgettes? Qu'est-ce que tu fais de tes épluchures?
Alors, c'est souvent dans mon compost et parfois, on arrive à les recycler dans des quiches ou dans des soupes. Mais bon, j'ai besoin de recettes, ça, c'est sûr.
Ah, mais voilà, je vois que tu es déjà précurseur en la matière. Alors, je vous propose d'aller sur le site de Sayes, c'est le site de l'économie solidaire. Puisqu'on peut trouver en téléchargement un petit fascicule qui est fait par France Nature Environnement, soutenu par la Massif. Ce petit fascicule, il a été réalisé à l'issue d'un concours qu'a lancé France Nature Environnement, où on pouvait donner ces recettes faites à partir d'épluchures de légumes. On trouve plusieurs recettes sur ce petit fascicule en téléchargement, notamment comment cuisiner les épluchures pour faire de la soupe ou alors des chips de légumes. Ah. Voilà. Donc, je ne vais pas vous détailler une recette aujourd'hui, mais c'est très sérieux. Il y a plein de conseils aussi sur une bonne gestion des épluchures et des déchets dans la cuisine. Le petit fascicule, il s'appelle « À vos tabliers ». Et je vous propose donc d'essayer ces recettes et puis de nous laisser des bonnes nouvelles sur le répondeur de CBN pour nous dire ce que vous avez fait, comment vous avez trouvé. Et puis aussi, soyons créatifs, on peut peut-être avancer. C'est aussi des recettes. Donc, Virginie, tu nous laisseras ta recette d'épluchure de courgettes, de spaghettis à l'épluchure de courgettes.
Pas de problème.
Voilà.
Alors, c'est l'histoire d'un Burundais et d'un Burkinabé. Ces deux hommes sont depuis toujours animés par une conviction profonde et une envie profonde, c'est de lutter contre le paludisme en Afrique. Il faut rappeler que le paludisme, il tue 500 000 d'Africains par an, et notamment des enfants de moins de 5 ans. Donc ces deux-là, ils se sont rencontrés par chance un petit peu, et ils ont eu une idée de génie, je trouve, en fait, c'est de partir de la réalité des gens pour lutter contre le paludisme. Alors leur idée, c'est de fabriquer un savon qui pourrait être un palliatif au palu. Et donc, ils ont en fait pensé au savon parce que c'est vraiment, d'après les études, et puis ils le savent de leur culture, l'outil qui est utilisé partout pour laver la vaisselle, pour laver le corps, pour se laver les cheveux. Donc, ils se sont dit, il faut partir de quelque chose que concrètement, les gens utilisent, même quand ils ont peu de moyens, et ne pas leur rajouter un coût d'un médicament supplémentaire. Donc, on va travailler sur la base de la fabrication d'un savon local anti-moustique que les gens pourront avoir pour vraiment peu de frais. Donc là, à l'instant actuel, ils ont quand même bien avancé puisqu'ils ont gagné, ils travaillent maintenant au sein d'un incubateur spécialisé dans l'accompagnement des entreprises locales. La fabrique, elle se trouve à Ouagadougou et les laboratoires de recherche travaillent avec des étudiants pour développer ce savon qui pourrait être en vente début 2016. Donc on va essayer de suivre aussi cette histoire.
Une bonne nouvelle écologique. Alors, trouvez sur le site marcelgreen.com. Alors, on a tous des portables, des téléphones portables, pour la plupart des smartphones, vous savez, avec l'écran, voilà. Et donc, il y a une entreprise hollandaise qui s'appelle Fairphone, qui vient de sortir un téléphone qui s'appelle le Fairphone 2 et qui est qualifié comme le smartphone éthique. Alors, la particularité de ce smartphone, déjà, c'est que l'entreprise s'engage à des engagements éthiques concernant la fabrication et l'utilisation, la traçabilité des métaux précieux qui servent au circuit électronique du téléphone. Hein. Ceci, afin d'éviter le trafic lors du recyclage. Alors, le Fairphone 2, sa particularité, c'est qu'il est en plus réparable et modulable. Parce que vous savez que certains constructeurs, s'arrangent pour que leur téléphone, 2 ans plus tard ou 3 ans plus tard, la batterie est naze, l'écran va plus très bien. Donc il faut. Et puis c'est impossible à bricoler soi-même, donc on le met à la poubelle et puis on en rachète un autre. Alors là, Fairphone propose des pièces de rechange. On peut acheter des parties du téléphone, alors soit pour le réparer, soit pour le faire évoluer, une nouvelle batterie, un nouvel écran, quand ça se présente. Et ils ont un site internet où on peut trouver des tutoriels qui aident à faire cette réparation, à changer ce module. Voilà, donc le téléphone est d'origine conçu pour être durable. Voilà, c'est ça. Son prix, c'est quand même 525 €, c'est un peu équivalent à certains téléphones de cette catégorie, mais c'est un petit investissement. Mais par contre, on va pouvoir le garder beaucoup plus longtemps qu'un téléphone classique.
C'est fini pour cette rubrique CBN tout azimut, et on enchaîne avec un petit morceau de musique.
Ta tantine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards, un tantinet têtu, tu voudrais savoir, tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu, la retourner lui faire tâter du tatami. T'es triste, tu voudrais têter la tétine comme un toutou, tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné et le temps te tasse. Alors tu tises et tu tâtes, t'étais d'autres tantines, mais la chair est triste et le temps fait tic-tac. Et personne ne toque, tu craques depuis qu'elle a pris, c'est cliqué, c'est claque. Et le temps fait tic-tac, personne ne rattrape, le doute rentre dans ta tête et tu tombes dans la trappe. Tu regrettes le temps d'antan quand t'étais son titan, tu t'étanisais son palpitant, qu'elle était attirée par ton statut de matamorimenté. Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou, mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée, c'est toi qui l'attends tout retourner comme une tarte tatin. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes, tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Tu fais le tech, elle le toutou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand, quand t'as dit. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton.
Vous êtes bien sur CBN, 7 Bonnes Nouvelles, sur le 107, un Radio Bartas. Nous venons d'écouter ce Viet suprême, Rongra Kati Katong.
Rubrique CBN, bien de chez nous. Alors aujourd'hui, nous accueillons Delphine, qui travaille pour l'ATCC. Donc bonjour Delphine.
Bonjour.
Est-ce que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer ?
Oui, j'ai une bonne nouvelle parce qu'au niveau de l'association territoriale Causses-Cévennes, nous avons travaillé à organiser la réflexion sur le territoire afin de répondre à un appel à projet pour bénéficier de fonds leaders. Ce sont des fonds européens.
Oui, donc, alors précise-nous ce que sont les fonds leaders.
Les fonds leaders, ce sont des fonds européens qui sont dédiés au développement rural, au développement des territoires ruraux. Ce sont des fonds qui viennent donc de l'Europe et qui sont gérés directement sur les territoires.
D'accord. Et donc, comment vous avez fait, en fait, pour obtenir ces fonds leaders ?
Alors, en fait, il y a eu une grosse mobilisation sur le territoire. Il y a eu une quinzaine de réunions à l'automne dernier, une vingtaine en janvier et février.
Oui, à différents endroits.
À différents endroits du territoire, dans les gorges du Tarn, dans les Cévennes,
sur le Mont-Lozère.
Voilà. Sur le Mont-Lozère aussi, oui.
Sur le Mont-Lozère aussi. Et donc là, il y a plein de gens, que ce soit des élus, des entrepreneurs, des associations, qui ont dit leurs projets pour le territoire, leurs envies, leurs soucis, leurs questionnements. Et ensuite, au niveau de l'équipe technique de la TCC, donc nous sommes trois animateurs, au niveau de l'équipe technique, on a fait une soupe de tout ça pour écrire un projet, une stratégie de développement.
Oui. Alors, si on veut un peu préciser justement la zone sur laquelle porte cette stratégie de développement, donc je crois qu'il y a les Causses, les Cévennes, le Mont-Lozère.
Et les Gorges.
Et les Gorges. Évidemment. Pardon, j'allais oublier les Gorges.
Et on reste sur le département de la Lozère, hein, c'est bien
donc,
ça.
Voilà, c'est ça. C'est une zone avec au total 6 communautés de communes et 12 000 habitants.
Oui, d'accord. On ne dépasse pas la frontière vers le Gard, non. Surtout.
Mais alors, du coup, ce projet a été accepté ?
Voilà, ce projet a été accepté au niveau de la région, qui est l'autorité de gestion de ces fonds européens. Et donc, nous avons eu une très bonne note dans la gestion du dossier. Et Nous avons même reçu la plus grosse enveloppe de toute la région.
Voilà, alors, bravo.
Bravo, bravo, oui, bravo au territoire.
Beau travail.
Bravo pour nous.
bravo pour nous, oui.
Et quel est le montant, cette enveloppe ?
Alors, en fait, on a l'enveloppe initiale, elle est de 2,5 millions à dépenser sur 6 ans. Et puis, normalement, si on est assez fort dans notre organisation, on devrait aller jusqu'à 2,8 millions. Ce
voilà.
Qui nous fait...
Parce que 2 millions, comme ça, pour... moi, j'y connais pas grand-chose, ça me dit pas forcément grand-chose. Mais tu nous disais tout à l'heure que, par exemple, les 6 dernières années... Le programme leader sur la même zone, c'était...
Ça avait été à peu près 500 000 euros dépensés sur le territoire. Donc ça veut dire que là, on a carrément des moyens supplémentaires pour mener à bien des projets, des gros projets, et faire évoluer les choses ici.
Ouais. Alors quel type, justement, il y a des axes, j'imagine, dans cette stratégie ?
Exactement.
Quel type de projets vont pouvoir recevoir ces fonds ?
Voilà.
Alors l'objectif de la stratégie, c'est quand même de faire que le sud de Lozère, notre territoire, il reste vivant et il soit de plus en plus vivable et qu'on puisse continuer à y habiter, à y vivre, à avoir une activité, à accueillir des touristes, à avoir des enfants.
Oui, bref, donc à créer des emplois, à faire venir éventuellement des nouvelles personnes. Enfin,
et voilà. À bien vivre, à continuer à bien vivre ici.
À continuer à avoir notre identité culturelle, notre bien-être ensemble, continuer à développer notre territoire. Et donc, pour ça, il y a trois axes de développement dans la stratégie. Les axes, en fait, c'est là où est divisé l'argent, en fait, pour les projets. C'est plus pour les financeurs, à la limite. Donc, le premier axe, c'est un axe plus économie. Enfin, l'idée de développer des filières en lien avec les ressources du territoire. Par exemple, la pierre.
Si on donne un exemple, voilà.
Voilà, ça peut être la pierre la farine, la filière farine qui est en train de se construire sur le Cosmégen.
Une filière, ça va être à la fois l'agriculteur qui va récolter les châtaignes, celui qui va s'occuper de faire la farine. Voilà,
celui qui va transformer, celui qui va le commercialiser, celui qui va en faire un produit complètement local à partir, aller sur quelque chose de vertueux, des circuits courts. Une consommation locale, une valorisation locale de nos produits.
Oui, évidemment, parce que de toute façon, on sait bien que c'est avec les circuits courts qu'on s'y retrouvera le mieux. Il ne s'agit pas de faire de la farine de châtaigne et de l'exporter.
Ça peut être aussi, mais l'idée, c'est de la transformer au maximum sur place pour en bénéficier la plus-value. Quoi. Donc, il y a un premier axe comme ça qui est vraiment plutôt économique. Ça peut être aussi accompagner des entreprises du territoire qui veulent développer un nouveau produit en lien avec les ressources du territoire et qui ont besoin à un moment donné d'investissements forts sur certains types d'équipements. Voilà. Après, il y a un deuxième axe qui est vraiment en lien avec notre territoire et ses caractéristiques physiques, savoir ses paysages, son patrimoine culturel et naturel. Et tout ça, c'est intimement lié quand même au tourisme, qui est une des activités économiques du territoire.
Importante.
Voilà. qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ce deuxième axe, c'est celui sur lequel on a essayé de miser le plus, à savoir de renforcer le tourisme sur notre territoire en lien avec les ressources locales pour offrir de meilleurs services aux touristes, dans l'accès à la nature, dans l'accès à nos paysages, mais aussi dans le type d'hébergement ou de services qui leur sont proposés, quoi.
Bon, alors, chez moi, j'ai un vieux four à pain, par exemple. Est-ce que je peux aller te voir à la TCC et repartir avec un petit chèque pour refaire la toiture de mon four ?
Alors, c'est une bonne idée, mais l'idée, c'est que les projets, ils aient un impact au plus grand nombre. On ne va pas financer des projets individuels juste pour ton plaisir de ton four à pain et de ta pizza dominicale. Mais disons que c'est un four à pain dans un village sur lequel la commune et les habitants s'organisent pour faire un circuit de découverte du village en valorisant leur patrimoine. Ça, c'est tout à fait le genre de projet qui pourrait être développé et soutenu par le leader, d'autant plus si y a l'aménagement d'une aire de pique-nique et d'une aire de jeu pour les enfants à côté, et que c'est un vrai projet d'embellissement et d'aménagement du territoire.
Bon, d'accord, je vais réfléchir à ça pour mon four à pain.
Et alors, le dernier axe ?
Alors, le dernier axe, c'est un axe un peu plus général, c'est l'axe où on l'a appelé attractivité, et en gros, c'est tous les éléments qui permettent de bien vivre sur un territoire, à savoir la culture, le sport, les loisirs, la petite enfance, tout ce qui est nécessaire à être bien quelque part. Donc, en gros, c'est soutenir des équipements, soutenir la mise en place d'équipements, pour qu'on puisse continuer à avoir des activités. Alors, je t'ai parlé d'aires de jeux, il peut y avoir des city parks, enfin, donc des parcs de jeux dans les communes, il peut y avoir des circuits de vélo, des bike parks.
Des nouveaux équipements pour les jeunes, par exemple, pour les plus âgés aussi.
Oui, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup centré sur les jeunes et aussi le public ado, parce qu'on a vu qu'il y avait un manque sur notre territoire. Il y a quand même des choses pour les tout-petits, pas tant que ça, c'est pour ça qu'on a aussi essayé de mettre en place des aires de jeux pour les enfants. Mais pour le public ado, il y a peu de choses, peu de lieux de rencontre et peu d'activités propres. Donc on a essayé de cibler ça. Puis il y a aussi un autre point, c'est quand même des équipements pour toutes les assos du territoire qui pourront être mutualisés. L'idée, c'est de pouvoir avoir un stock d'outils sur le territoire, que ce soit du véhicule, des toilettes sèches, des vidéoprojecteurs, du matériel de sono, qui puisse être partagé entre plusieurs associations s'il y a des besoins pour organiser des événements. Enfin, ne pas bloquer les envies des gens à cause de petits problèmes matériels, quoi.
Oui, et puis de toute façon, après, là, c'est trois axes bien marqués, mais il y a des liens transversaux. Si on fait un événement et qu'on utilise du matériel mutualisé, forcément, ça va aussi attirer des vacanciers, des gens qui viendront pour le week-end.
Et ça aura une retombée économique aussi localement, par exemple.
Oui, une aire de jeu, ça va servir aussi bien aux enfants qui vivent là toute l'année qu'à ceux qui viennent en vacances.
Exactement, aux touristes aussi. Et puis, c'est souvent important pour les parents de jeunes enfants, de savoir qu'il y a des équipements quelque part, quoi. Ça les aide à rester un peu plus longtemps sur un territoire, même avec des tout-petits.
Et alors, combien de temps va durer ce financement, cette possibilité de financement ?
Alors là, on a un accord jusqu'en 2020, donc c'est sur 6 ans. Et donc, on a le territoire à 6 ans pour dépenser ces 2,8 millions. Ouais. Sachant que, quand je dis 2,8 millions, c'est 2,8 millions d'Europe, d'argent d'Europe, mais que pour les toucher, en fait, il faut amener d'autres fonds public. D'accord. Donc ça veut dire que ce 2,8 millions, en fait, ça va se transformer en à peu près 5,5 millions, 6 millions sur notre territoire. Donc, d'investissement, d'accompagnement, d'argent, de mis.
Donc concrètement, si j'ai un projet, qui peut présenter des projets et comment ça se passe ?
J'ai un projet d'entreprise, j'ai une idée, j'ai envie de créer une entreprise de je ne sais pas quoi, réalisation de tarte à la châtaigne, par exemple. Donc comment je m'y prends ?
C'est déjà pris ça.
C'est déjà pris, bon, une autre idée, tarte aux pommes. Bon, comment je m'y prends ? J'ai besoin de matériel, j'ai besoin de locaux. Est-ce que je peux venir solliciter l'association territoriale ?
Exactement. En fait, il faut venir nous voir. Et nous, techniquement, on vous aide à organiser le projet. On vous met en lien avec tous les autres partenaires qui sont là aussi pour accompagner. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, il y aurait les consulaires, les chambres consulaires.
Oui, tout à fait.
Puis en lien avec les autres financeurs qui peuvent financer ce projet. Et ensemble, on écrit le projet. Enfin, on vous aide à écrire le projet. On fait un tour de table de l'ensemble des financeurs pour trouver les financements,
les cofinancements,
complémentaires nécessaires. Oui. Et ensuite, le dossier peut passer dans un comité de programmation local, c'est-à-dire localement, pour décider d'attribuer les fonds européens pour le projet.
Voilà. Voilà. En sachant que vous donnerez quand même la priorité à des projets un peu plus collectifs qu'individuels. C'est l'idée des filières, en fait.
Sur les filières, oui, voilà, c'est l'idée.
Ou des regroupements d'entreprises.
Oui. Bon. Pas forcément.
Pas forcément, d'accord.
On donnera la priorité à des projets qui auront un impact réel dans le cadre de nos stratégies, donc de pouvoir bien vivre sur notre territoire, développer des emplois, des activités en lien avec les ressources locales et en lien avec l'environnement et une idée de développement durable. Quoi.
Qui pourra bénéficier, les associations, les privés?
En fait, voilà, des entreprises, des associations, des collectivités et voilà, tout type de porteurs de projets pour en bénéficier, ouais. Voilà.
Après. Voilà, je crois, les taux de financement ne sont pas les mêmes, d'après ce que tu nous disais.
Oui, parce qu'il y a des règles de financement, ouais. Quoi. Des associations ou des collectivités, elles peuvent être aidées à 80% de leurs projets. Par contre, une entreprise du secteur privé, il y a des règles de concurrence. Donc, général, l'aide publique, elle est limitée à 40% du projet.
Oui. Et donc, petit détail un peu technique, quand on dit l'aide publique, il y aura à la fois le leader, mais ça oblige aussi à trouver des financements complémentaires, voilà, plus locaux, des cofinancements. Oui. Voilà. C'est ce qui est important, je pense aussi, c'est que...
Il faut trouver ces cofinancements. Ouais. Ça peut être, il faut que ce soit de l'argent public, donc de l'argent d'une commune, du comité de communes, du département, de la région. Ça peut être aussi le parc national ou de l'État.
On dirait jamais.
Voilà, on ne sait jamais.
Et donc, pour en savoir plus, comment on peut faire? Je crois qu'il y a un événement qui est prévu.
C'est ça. Donc, mardi 15 septembre, après-midi, il y a une grande rencontre à Supagro, à l'Amphi, pour présenter justement le programme au plus grand nombre, expliquer comment ça va se passer et quels seront les axes. Sachant qu'on aura les enveloppes et les montants définitifs d'ici un mois et demi, d'accord, à peu près, quand tout sera organisé avec la région.
Et je crois, pour finir, Delphine, que dans le projet global, il y avait une petite ligne qui concerne un peu plus Radio Barthas, me semble-t-il.
Oui, parce qu'en fait, ce qui a beaucoup intéressé ceux qui ont suivi le dossier et qui nous ont attribué une bonne note à la fin, c'est qu'en termes de communication, on s'est dit qu'on n'allait pas mettre beaucoup d'argent peut-être dans les plaquettes et les flyers, etc., mais qu'on aimerait mettre plutôt de l'argent dans de la communication au plus grand nombre, et que du coup on avait un outil sur le territoire, c'était Radio Barthas, et que du coup on a proposé de faire une émission régulière, voilà, pour parler des projets qui sont accompagnés sur le territoire, de comment l'argent de l'Europe, à quoi elle sert sur notre territoire très très concrètement, en faisant parler les porteurs de projets, voilà.
Voilà, donc je pense que nous retrouverons parfois Delphine dans CBN, mais peut-être aussi pour une autre émission plus complète.
J'espère.
Donc tout ça présage plein de bonnes nouvelles pour notre territoire, et donc on espère en reparler d'ici quelques mois, quand ça sera un peu plus en place.
Voilà, et là, du coup, on s'est engagé à faire une émission pendant 6 ans.
Voilà, 6 ans de bonnes nouvelles.
6 ans de bonnes nouvelles.
On te remercie beaucoup, Delphine, d'être venue jusqu'à nous.
C'est moi.
Au revoir.
Ladies and gentlemen, you're listening CBN on Radio Barthas.
Et voilà, c'est déjà bientôt fini. On est à la dernière rubrique de CBN. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Alors ce mois-ci, notre conseil de lecture, il s'agit d'une bande dessinée, Les Petits Ruisseaux de Rabaté. Que vous dire, cette bande dessinée fort réjouissante. Peut-être le sous-titre même de la bande dessinée, Sexe, Rock'n'Roll et Alcool, sachant que le héros a 75 ans bien tassé. Et puis un film que j'ai enfin vu cette semaine, j'en avais entendu parler depuis très longtemps, il s'agit des Héritiers, de Marie Castille Mansionchar. Alors depuis, je pense à ce film à peu près tous les jours, j'avoue. Il est à voir absolument, ou à revoir, à montrer à tous, aux réacs, aux bobos, aux profs, aux éducs, aux élèves, et puis aux pessimistes. Hein. C'est l'histoire vraie d'une classe de seconde en roue libre qui retrouve son chemin grâce à l'histoire. Belle projection. On part tout de suite avec Gossip Heavy Cross. Thank you.
Vous êtes bien sur CBN, Radio Bartas 107.0. Et bien, nous arrivons au terme de notre émission, Virginie. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, vous pouvez réécouter l'émission tous les jours si vous en avez besoin. Vous l'enregistrez quelque part chez vous et voilà. Et vous pouvez la podcaster, comme on dit, sur le site radiobartas.net. Elle sera rediffusée le vendredi 25 septembre à 18h. Et nous, ben, on vous retrouve pour une prochaine CBN le lundi 5 octobre, donc sur le 107.0. Et alors surtout, surtout, n'oubliez pas d'alimenter notre mail et le répondeur. Je vous rappelle encore une fois le numéro 04 66 47 06 92. À bientôt. Merci Virginie. À bientôt. Au revoir.
Au revoir. À bientôt. Au mois
merci
prochain.
Aurélien. Merci tout le monde. Merci à vous.
Au revoir.
It was CBN on Radio Bartas. Thanks for listening.